Une heure sur Mars.
Une émission thématique tous les troisièmes vendredis du mois de 16h à 17h.
Sur Radio Galère.
Bonjour à tout le monde. Dans ce qui devrait être la dernière émission de Une heure sur Mars, troisième et dernière. Aujourd'hui, on va parler d'indépendance des journalistes. Et en fait, je dis « on », mais je suis toute seule, Sonia, parce que Tatiana a dû partir plus tôt. D'une part, une première question qui se pose quand on parle d'indépendance des journalistes, c'est la définition de ce qu'on appelle indépendance. Et ça, c'est une question que j'ai posée à la journaliste Daphné Gastaldi il y a quelques mois. Et elle y répond très gentiment dans l'interview que vous allez écouter tout de suite. Comment est-ce qu'un média c'est indépendant selon vous ?
C'est pas selon moi, hein, oui. Les médias indépendants. Les médias indépendants comme Mediapart ou Mars Actu à Marseille vivent grâce à leurs abonnés. Donc c'est vraiment l'abonnement pour eux par exemple qui leur permet d'être indépendants. Mediapart n'a pas de publicité. Donc c'est vraiment ça qui leur permet de vivre, et c'est leur slogan même, par exemple, c'est nos lecteurs qui nous financent et personne d'autre. Voilà, c'est un exemple de médias indépendants, mais on peut citer Médiacité qui est dans 5 villes, on peut citer Le Poulpe, on peut citer vraiment, il y a tout un ensemble de médias indépendants qui se sont créés ces dernières années, notamment en dehors des grandes villes, qui est vraiment intéressant à suivre et qui révèle beaucoup d'informations. Il y a des partenariats aussi entre ces médias indépendants qui permettent de les rendre plus forts aussi, plus visibles.
Donc définition d'un média indépendant, selon Daphné Gastaldi, c'est le fait que le média en question ne reçoive de l'argent que de sa propre production. Donc il n'a pas besoin de ressources externes telles que la publicité ou des actionnaires. Sauf que, en fait, un fonctionnement comme celui-là, donc l'indépendance complète économiquement parlant, c'est pas vraiment possible pour tous les médias. Pour un journal papier, ça peut le faire, parce qu'il y a juste, entre guillemets, à payer les salariés, les journalistes, les locaux s'il y a, et du coup le site internet si c'est en ligne, ou alors le papier, l'impression s'il s'agit d'un journal papier. Sauf que si on prend l'exemple d'une radio, par exemple, c'est un média qui est diffusé gratuitement sur les ondes, et il faut payer déjà l'autorisation pour utiliser ces ondes, il faut payer l'antenne pour la diffusion, il faut payer les salariés, les journalistes, et il va y avoir énormément de charges, potentiellement plus, parce qu'entretenir une antenne, quand même, ça coûte de l'argent, et pour autant, il n'y aura pas de revenus du fait de la seule production de contenu. C'est un peu pareil pour un plateau télé, de la même façon il faut payer l'ARCOM, il faut déjà obtenir l'autorisation de l'ARCOM, et il faut payer les salariés, les locaux, avoir en plus un plateau assez propre, etc. Donc dans ces deux cas de figure-là, déjà on a moins de revenus d'abonnement par rapport à un média papier qui peut se vendre, et pourtant potentiellement plus de charges. Alors là je vais donner deux exemples de médias, radio et plateau télé, mais on peut aussi en avoir d'autres. Par exemple un format vidéo sur YouTube, il y aura aussi à payer le loyer des locales, les caméras, etc. Donc en fait c'est compliqué de parler, c'est compliqué de refuser à tous les médias qui ne dépendent pas de leur seule production le qualificatif d'indépendance, parce qu'on a quand même plein de médias radio ou télé je sais pas, mais on a quand même plein de médias radio qui ont une forme d'indépendance, il nous semble, et qui pourtant dépendent quand même de revenus extérieurs. Et en fait, de la même façon, c'est compliqué de parler, de définir clairement ce que c'est que l'indépendance d'un journaliste. On peut se référer à la charte de Munich, qui s'appelle aussi la charte des devoirs du journaliste. Sauf qu'en fait, cette charte, elle donne pas vraiment de trait absolu de ce que c'est qu'un journaliste indépendant. Elle va donner quelques conseils, quelques grandes idées qui permettent en fait de relever quatre grands axes pour qu'un journaliste soit un bon journaliste. Elle ne parle même pas forcément uniquement d'indépendance, mais de qualité du journalisme. D'une part, elle essaye de protéger la liberté et la vérité de l'information. Donc l'idée, c'est que le journaliste doit toujours avoir le droit de suivre ses préférences de conscience, quel que soit le journal dans lequel il ou elle travaille. Donc le journal ne peut jamais le contraindre. Ce qui concerne le journal lui-même, il doit y avoir une certaine... Enfin, le moins d'influence possible entre la direction et la rédaction, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. La charte de Munich, elle parle aussi de l'impartialité de l'information, donc elle essaye de faire une différence entre journalisme et communication. Elle dit que le journaliste doit refuser toute forme de cadeau, il doit être couvert par un salaire suffisant et ses voyages, enfin tous les frais de son travail doivent être financés par la personne qui s'occupe, enfin qui achète ce travail-là. En fait, c'est cet élément-là qui est intéressant pour parler d'indépendance, c'est-à-dire que pour être indépendant, un journaliste, il doit avoir les moyens de survivre pour pas avoir à chercher ses moyens ailleurs. C'est pas clair ce que je dis, mais c'est-à-dire que si le journaliste a un salaire suffisant, il n'aura pas besoin de vendre son travail à des personnes d'influence qui pourront le payer et pour avoir de l'influence. Si le journal paye suffisamment le journaliste n'aura pas à recevoir des cadeaux d'ailleurs, en fait, tout simplement. Donc il y a quand même quelques idées comme ça, mais en fait il n'y a rien de précis qui dit en tant que journaliste, vous n'avez pas le droit de faire ça, et un vrai journaliste indépendant, c'est un journaliste qui fait ça. Il y a juste quelques idées comme ça. Et en fait, ce qu'on peut retenir de cette charte de Munich, c'est qu'on ne peut pas définir clairement ce que c'est l'indépendance journalistique pour un journaliste, déjà. Mais qu'il y a un ensemble d'idées qui, assemblées ensemble, convergent vers un concept d'indépendance. En fait, elle présente, cette charte, elle présente l'indépendance des journalistes comme un enjeu moral, plus que vraiment comme une idée précise et absolue définie. On ne peut pas tellement dire que tel ou tel journaliste est indépendant ou indépendante, sauf si la personne travaille seule, effectivement, dans ce cas, économiquement, enfin, c'est indépendant, quoi, elle est toute seule. Mais en même temps, c'est injuste de refuser à tous les journalistes salariés qui travaillent dans des journaux cette qualité d'indépendance, parce qu'il y en a plein qui sont quand même très... Enfin, qui ont une conscience professionnelle et qui cherchent à être des vrais journalistes indépendants, et qui pourtant, enfin, dépendent, effectivement, d'un journal pour survivre, quoi. En fait, chacun a plus ou moins sa propre façon d'être indépendant. Sauf certains journalistes qui vraiment en ont probablement un peu rien à faire, mais il y a quand même beaucoup de journalistes qui font leur travail en essayant d'être indépendants ou indépendantes, et même si des fois, on sent que c'est jamais complètement possible, parce qu'un journaliste a intérêt quand même à travailler dans un journal. Donc cette façon d'être indépendant, ça peut être de choisir déjà le journal selon leurs opinions politiques, donc comme ça, effectivement... Ce ne sera pas le journal qui influence le journaliste, étant donné que le journaliste lui-même a choisi ce journal. Certains journalistes font grève quand il y a des atteintes à leur indépendance, quand on constate par exemple, quand la direction... récemment, il y a eu, du coup, quand la province a été rachetée par CMA-CGM, on a eu plein de journalistes de la province qui ont fait grève... Enfin, c'était pas au moment où ça a été racheté, mais au moment où Rodolphe Saadé est intervenu sur une une de journal, c'était une une anti-Macron, enfin qui a été jugée anti-Macron, et la direction a voulu shut down cette une, et du coup on a eu plein de journalistes de la province qui ont fait grève pendant un moment pour se plaindre de cette intervention-là. Bah, en ce sens, c'est des journalistes qui tenaient à leur indépendance, puisqu'ils étaient scandalisés du fait qu'on puisse les empêcher de parler, quoi. On a d'autres journalistes aussi qui choisissent de travailler uniquement pour des médias qui sont indépendants, donc c'est le cas par exemple de Daphné Gastaldi. Et parmi ceux-ci, donc, il y en a qui sont à leur compte, donc comme Daphné Gastaldi, il y en a qui travaillent avec des collectifs. Et d'ailleurs, c'est encore une fois le cas de Daphné Gastaldi qui travaille dans le collectif We Report et qui nous en parle dans ce même interview effectué il y a quelques mois. Dans quelle mesure un collectif comme ça de pigistes répond à un impératif d'indépendance de chacun, du coup, des journalistes et plus généralement aussi par rapport aux médias avec lesquels vous travaillez?
Alors, c'est un statut hein, d'être journaliste indépendant. Donc nous, on le choisit parce qu'on avait envie de prendre le temps, c'est-à-dire de ne pas être soumis à l'impératif de médias qui souvent doivent publier tous les jours. Donc nous, on avait envie de travailler en équipe, de travailler parfois sur des projets qu'on met des mois à monter à l'étranger ou sur des enquêtes longues. Et en fait, nous, notre force... et c'est ce qui est apprécié d'ailleurs par les médias avec qui on travaille, c'est qu'en fait, on arrive à dégager beaucoup de temps sur un sujet à plusieurs. Ce que des rédactions n'ont pas forcément le temps de faire en interne. Alors ça se développe de plus en plus, hein, ce que je dis a bien évolué, parce qu'il y a des cellules d'investigation qui se sont créées maintenant dans certains médias. Mais parfois, ils ont besoin de renfort, en fait, ils ont besoin de notre travail aussi. Donc voilà, nous, ça nous permet de faire ça. Ça nous permet de décider pendant 3 mois, pendant 5 semaines, pendant 1 an, on va travailler là-dessus parce qu'on commence à avoir des informations, que ça peut être gros, que derrière il y a des vrais problèmes, des vrais dysfonctionnements qu'il faut révéler. Et donc nous, c'est la force de notre collectif We Report, c'est ça. Et donc on a fait par exemple Il y a des membres du collectif qui ont travaillé depuis, qui travaillent depuis plus de 10 ans sur Interpol, par exemple. C'est rare que voilà, des journalistes soient mobilisés pendant autant d'années sur un sujet. On a pu révéler des scandales d'agressions sexuelles cachées dans l'église, dans le monde du sport. On a développé des méthodes aussi qu'on a reproduites pour des médias. Et là, dernièrement, ça va être par exemple sur les crèches privées. Ce livre sur les crèches privées, en un an, je n'aurais pas forcément réussi à le faire toute seule. On était beaucoup plus fort à deux et on pouvait aussi se dire, bon, on peut se permettre de prendre le temps de le faire parce que voilà, on a cette liberté-là aussi avec notre casquette d'indépendant.
D'accord, très
Après,
bien.
Il faut aussi les carrières de chacun et chacune évoluant. On a aussi des journalistes qui commencent à être réguliers dans des médias. Moi, là, dernièrement, je travaille pour Médias Vivants, donc je suis je suis à temps partiel pour Médias Vivants à Marseille, et je garde une casquette de journaliste indépendante aussi. Donc voilà, c'est des choses selon les évolutions, selon les opportunités qui évoluent comme ça.
Voilà, donc c'était Daphné Gastaldi. Au final, on a peu de journalistes indépendants ou indépendantes dans le sens de pas d'influence, donc pas exactement la définition, pas dans le sens où qui travaille seul. C'est relatif de parler d'indépendance journalistique pour une personne. Il y en a plein de façons différentes d'exercer cette indépendance. Et pour les médias, en fait, c'est un peu pareil. Il y a très peu de médias qui parviennent réellement à se rémunérer à partir de leur seule production. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est envisageable pour un journal écrit, parce qu'il peut vendre ses journaux et ses abonnements. Et c'est plus simple encore pour un format en ligne. Et d'ailleurs, petit aparté, c'est comme ça que Mediapart a réussi à assurer son indépendance et même à devenir rentable. Et ça, c'est Fabrice Drouel qui nous en parle dans un affaire sensible, que je vais vous passer tout de suite.
Créer un média indépendant, bien sûr. Mais un quotidien papier, c'est 40 millions d'euros d'investissement. Au départ, impossible d'être indépendant dans ces conditions. Alors, la solution Internet s'impose. Mais il n'existe aucun journal payant sur le web. Tout est gratuit, on l'a dit. Les projets qui émergent dans ces années-là, comme Rue 89, mis sur une rémunération au clic, autrement dit à la publicité. Un système qui paraît d'office dangereux aux petits groupes, qui planche, lui, sur une autre formule. Un journal Internet payant pour ses lecteurs. Un modèle économique jamais testé. À ce stade, il faut donc trouver quelqu'un qui s'y connaît en montage financier.
Et ensuite, je vous encourage à simplement écouter le podcast en entier si vous voulez en savoir plus sur Mediapart. Alors, donc, comme on l'a dit, c'est envisageable pour une presse écrite, c'est d'autant plus d'un point de vue numérique, mais encore une fois, c'est pas forcément possible pour une radio ou pour une télé. Parce que, comme je l'ai dit, ça demande une antenne, que l'écoute est gratuite, etc., etc. S'ajoute à ça aussi le fait que l'accessibilité de l'information, c'est un enjeu crucial. Et ça, c'est aussi une problématique du coup pour les, enfin, et surtout une problématique pour la presse écrite. C'est-à-dire que certes, ça permet aux médias d'être tout à fait indépendants économiquement, mais le fait de vendre ces journaux, ça veut aussi dire que du coup, il y a plein de personnes qui ne les achèteront pas. Là, en l'occurrence, c'est une question dont nous parle Cécile lors d'un micro-trottoir réalisé début octobre.
Au niveau de la presse écrite, ce qui peut être rendre plus difficile l'accessibilité, c'est payant, quoi. Enfin, les articles de journaux, la plupart, il faut avoir un abonnement pour les lire. Enfin, moi, c'est aussi pour ça que la presse écrite, au final, je prends par exemple un essai gratuit pendant un mois et ensuite j'arrête parce que j'ai pas forcément envie de payer 12 euros tous les mois pour lire la presse écrite. Du coup, je m'informe autrement. Donc peut-être que ça peut mettre un peu un frein à l'accessibilité des médias écrits.
Donc au final, le format du journalisme rémunéré uniquement par sa seule production, d'une part c'est difficile à atteindre pour plein de médias, et c'est aussi loin d'être parfait pour ces raisons d'accessibilité. Mais dans ce cas, c'est quoi l'indépendance? Et est-ce que c'est un concept qui est atteignable au final pour tous les médias ou pas du tout? Alors d'une part, on a l'indépendance économique, c'est un peu ce dont je parle depuis tout à l'heure, c'est le fait de pouvoir rémunérer sa propre production seule, avec cette production quoi. Et il y a l'indépendance des idées. Et dans cette idée-là, en fait, c'est l'absence d'influence extérieure sur le contenu éditorial du média. C'est-à-dire que ce que produit le média, ça vient uniquement de lui. Et c'est pas d'autres personnes qui lui ont demandé de le faire. concrètement, que seul le ou la journaliste ou le média soit la personne qui décide si le propos est tenu ou non, et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui achète le média ou le journaliste pour dire ce contenu-là. C'est-à-dire, en fait, la volonté de produire un contenu qui n'est pas influencé à droite à gauche. En fait, en gros, c'est une conscience professionnelle journalistique ou médiatique, du coup. Avoir un média, non pas dans le but de se faire plein d'argent, que ce soit donc en avant, mettant en avant ses propres produits ou grâce à son influence. Donc là, typiquement, tous les actionnaires, enfin, oui, voilà, tous les grands actionnaires, de grands propriétaires de médias qui pourraient mettre en avant leurs propres marchandises par les médias qu'ils ont achetés, ou que ce soit pour l'utiliser dans un but lucratif, donc vendre une information qui s'achète, et du coup, tout le monde achète cette information-là, mais non pas forcément pour sa pertinence, mais juste parce que elle fait vendre, quoi. Donc plutôt un média, en fait, du coup, un média qui aurait une bonne conscience, c'est un média qui veut simplement donner une bonne information qui est importante et pertinente. Donc pour éviter les amalgames à la suite, pour me référer à l'indépendance des idées en tant que telle, donc à l'absence d'influence externe, je vais parler plutôt d'intégrité du média ou de la journaliste. Et pour attester de cette intégrité, l'indépendance économique, ça reste un critère important pour prouver en fait qu'un média est intéressé par l'information qu'il vend et non pas par l'argent qu'il peut récolter de cette information, et doit prouver que c'est pas le fric qui l'intéresse en premier lieu. Autrement dit, la transparence économique du média, c'est un très bon moyen d'attester l'intégrité du média en question. Et il existe en fait plein de médias très intègres qui se rémunèrent autrement qu'avec leur seule production. En fait, chacun a plus ou moins sa propre stratégie pour minimiser les influences extérieures qui ne sont pas souhaitées, plus ou moins efficacement probablement. Et d'ailleurs, on en a plein à Marseille et je vais essayer de présenter ces médias-là en priorité parce que quand même, on est sur Radio Galère. Alors, je vais les classer par modèle, format économique, parce que c'est quand même un peu le nerf de la guerre. Le modèle du journal entreprise. Par journal entreprise, j'entends un grand groupe médiatique, en gros, où il y a donc un journal ou plusieurs qui sont détenus par... Enfin, où il y a chacun une rédaction, chacun une direction, et potentiellement chacun de ces journaux sont rassemblés ensemble par une autre direction, etc. Donc, si on prend Le Monde, on a le gros groupe Le Monde, et dedans, on a Le Monde diplomatique, on a Courrier international, on a Le Monde classique, enfin, on en a plein. Donc le modèle du journal entreprise, c'est typiquement le modèle où il y a un ultra milliardaire qui possède du coup le média. Enfin, ça peut être un ou plusieurs ultra milliardaires. On pourrait considérer le journal entreprise un peu comme opposé en fait à l'indépendance, puisqu'il y a un actionnaire derrière qui peut influencer le contenu. C'est vrai que ça, en plus, ça suppose une distinction entre rédaction et direction. Donc rédaction qui décide de ce qui va être dit et direction qui décide de comment on gagne l'argent, etc. Et cette distinction suppose aussi une direction qui va peut-être un peu chapeauter la rédaction et donc l'influencer. Et donc là, typiquement, la rédaction n'est plus indépendante. La direction, par définition, a le dessus sur la rédaction et donc sur les journalistes. Et voilà, donc c'est compliqué d'être certain ou certaine qu'il n'y a pas d'atteinte à l'indépendance des journalistes. Mais il y a quand même quelques stratégies qui sont utilisées pour certains journaux pour essayer de pallier à ce risque quasiment inévitable. Il s'agit des fonds ou fondations pour l'indépendance. Et alors moi, je serais bien normale de vous expliquer ça. Donc je vais vous passer un podcast, enfin un morceau de l'édito média diffusé sur France Inter il y a quelques mois aussi.
Il est 9h44.
France Inter. Le 7-10.
Et c'est l'édito média Cyril Lacarrière. Question ce matin, les fondations peuvent-elles sauver les journaux ?
Si je vous en parle, c'est que le week-end dernier, un milliardaire, Xavier Niel, a racheté les parts du monde d'un autre milliardaire, Daniel Kretinsky, et que Niel a décidé de mettre toutes ses actions dans une fondation, ou plus précisément un fonds de dotation qui s'appelle le Fonds pour l'indépendance de la presse. Ce fonds doit devenir à terme le premier actionnaire du groupe Le Monde, qui en plus du quotidien comprend notamment Télérama et L'Obs. La vocation de tout ça, garantir son indépendance capitalistique. En clair, ça signifie que toutes les actions détenues par ce fonds ne pourront plus jamais être vendues et qu'aucun milliardaire ne pourra s'en emparer pour en faire un organe de propagande.
C'est un cas unique dans la presse.
Non, Libération, Mediapart et Ouest France sont aussi dans cette logique, je vais y revenir. Mais j'en profite pour saluer tout le travail entrepris depuis plusieurs années par Le Monde pour préserver l'indépendance de sa rédaction. Un exemple, quand Arnaud Lagardère dit que le choix du patron de la rédaction revient au responsable de l'entité économique, donc qu'il est libre de mettre Geoffroy Lejeune à la tête français du JDD. Au Monde, il faut que tout ça soit approuvé par la rédaction et c'est un vote qui change absolument tout. Bref, ce fonds de dotation, c'est à ce jour ce qui se fait de mieux pour préserver le travail des journalistes de toutes les interférences. Problème, c'est encore rare dans les médias français et autre problème, c'est un statut qui ne protège que ceux qui se portent bien.
Expliquez-nous pourquoi.
Pour le groupe Le Monde, qui revendique d'être bénéficiaire depuis 7 ans, c'est royal. Mais si je prends l'exemple de Libération, c'est très différent. Il y a 3 ans, Patrick Drahi décide lui aussi de transférer le quotidien à une fondation. Tout le monde savait que Drahi voulait se débarrasser de Libé, et comme il ne savait pas comment s'y prendre, la fondation, ça lui permettait de sortir par le haut, toujours grâce à la promesse de l'indépendance.
Oui, mais ça n'a pas permis de sauver Libération.
Financièrement, en tout cas, pas trop. Même si le quotidien va mieux, il a encore eu besoin d'aide il y a 1 an. Et qui est venu à son secours? Daniel Kretinsky, oui. Encore lui. Un prêt de 14 millions d'euros plus 1 million apporté au fameux fonds de dotation. Du coup, la rédaction du quotidien s'inquiète parce qu'elle a peur de son indépendance, celle-là même qu'on lui a promise grâce à la fondation. Vous voyez où je veux en venir? Oui, c'est important qu'un journal soit protégé par son statut, mais ce qui le protège, au fond, c'est l'argent. Son argent propre. Pas celui qui dépend de la pub, mais celui qui dépend de ses ventes au numéro, de ses abonnements, de ses événements. Bref, celui qui dépend de ce que le journal produit. Ça marche parce qu'à un moment, Le Monde, Mediapart, Ouest France ont fait le choix d'investir sur le journalisme, de renforcer leur rédaction. La vraie indépendance d'un journal, elle est là.
Merci Cyril.
Donc encore une fois, effectivement, ça parle d'indépendance économique d'un journal qui dépend uniquement de la production, comme on l'a dit. Mais nous, là, ici, on parle d'intégrité et donc du fait que même si parfois, en ayant recours à de la pub, parce que des fois, on n'a pas le choix, on peut quand même garder une certaine forme de liberté sur le contenu du média. Et puis, en fait, ces fondations pour l'indépendance, c'est en fait... Personnellement, en tout cas, je trouve assez peu convaincant parce que du fait de manque de transparence des grandes structures capitalistes que sont devenues ces journaux, détenus par des milliardaires, on ne comprend pas forcément grand-chose et du coup, ils sont tous mis dans le même sac. Un des critères pour l'intégrité, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la transparence économique. Et certes, il y a un fonds, il y a des histoires de vote et tout machin, on nous dit que c'est mieux, mais en vrai, moi, j'y comprends toujours que dalle, donc on ne peut pas parler de transparence. D'autant plus, donc, comme je disais, que pourquoi, en fait, acheter un journal? Pourquoi est-ce qu'un milliardaire voudrait acheter un journal si ce n'est pour acheter de l'influence et donc, en fait, avoir une action sur la rédaction? Cela dit, on a d'autres journaux qui choisissent le modèle de l'entreprise et qui, en fait, ont quand même plus ou moins une certaine intégrité, conscience professionnelle, journalistique, machin. Et pour ce faire, ils utilisent quand même le modèle de l'entreprise ou de la société, mais pour éviter qu'il y ait une influence sur la rédaction, ils essayent de porter plus d'attention sur les actionnaires. En s'assurant du fait notamment qu'aucun n'est suffisamment majoritaire pour vraiment avoir un pouvoir de décision trop fort sur le journal. Donc par exemple en ayant recours à des actionnaires individuels, c'est-à-dire que voilà, il y a plein de gens de partout qui tous ensemble vont acheter des parts dans le journal, et du coup en fait il n'y en a aucun d'entre eux qui tout seul peut faire changer quelque chose, et ça va être des décisions qui seront plus collégiales. Sinon on peut aussi avoir recours à des sociétés des amis ou sociétés des lecteurs et lectrices, sachant que les deux possibilités sont cumulables. Ce modèle-là, c'est celui du journal L'Humanité. Enfin, cela dit, le journal L'Humanité, pas du tout indépendant. Enfin, économiquement, si, ça va, mais politiquement, pas du tout, puisqu'ils sont rattachés au PCF. Et c'est aussi le modèle de Mars Actu, à Marseille, du coup. Cela dit, il faut quand même souligner que Mars Actu se repose pas uniquement sur ses actionnaires, mais aussi, du coup, par la vente de, ses propres journaux, puisqu'ils ont... Enfin, c'est un fonctionnement par abonnement. Et que les dépenses sont minimisées par uniquement du contenu en ligne. Par ailleurs, ils piochent aussi allègrement dans un fonds, enfin allègrement, c'est évidemment encadré, mais dans un fonds mis en place par Mediapart pour la presse indépendante, parce que Mediapart, ils sont tellement rentables qu'ils peuvent soutenir les petits journaux indépendants, et c'est très très chouette. Cela dit, tout ça, en fait, dans le cas de Mars Actu, en plus, ça permet de conserver une certaine accessibilité, parce que les articles sont tous dispo en ligne, il y en a certains en accès libre, certains il faut des abonnements, et ceux qui sont dispo que sur abonnement sont parfois disponibles dans certains cafés via la connexion Wi-Fi, machin. Donc c'est relativement irréprochable sur ce domaine-là. Sachant que c'est un travail journalistique de fond avec des journalistes salariés qui sont payés tous les mois, donc évidemment il y a besoin d'argent, quoi. Mais un modèle économique qui a l'air de tenir jusque-là. Sans contrevenir à leur intégrité, quoi. À côté de ça, en plus, on a une transparence économique assez chouette puisque les comptes sont publiés chaque année. Donc si le journal, d'un coup, changeait d'objectif et voulait s'étendre et faire plein d'argent, eh ben, on serait au courant, quoi. On peut aussi sortir du modèle de l'entreprise et donc choisir, par exemple, un modèle associatif. Et là, c'est souvent des moments où c'est un peu plus... Enfin, il faut beaucoup plus faire attention aux dépenses, donc il va s'agir de beaucoup les minimiser. Ça va être par exemple des médias qui vont beaucoup reposer sur du bénévolat ou qui vont pas payer de loyer ou peu. Alors ça, c'est le cas par exemple du journal CQFD à Marseille, qui minimise les dépenses, notamment en minimisant les salaires, parce qu'il y a du coup beaucoup de bénévolat, il y a des contrats aidés. Et en termes d'influence externe, c'est assez cool parce que, en fait, les journalistes sont parfois pas d'accord entre eux, donc c'est bien la preuve que chacun dit littéralement ce qu'il veut. C'est-à-dire que même la rédaction n'influence pas les journalistes. Donc c'est plutôt bien. Ça tient aussi grâce à des subventions, mais qui sont soulignées sur leur site internet. Donc on a une transparence économique assez irréprochable, une intégrité dont on ne doute pas. Lisez CQFD. Ensuite, on a Radio Galère. Donc c'est pas un journal papier, c'est une radio, ça alors. Et les émissions que vous entendez sur Radio Galère, pour le coup, c'est aussi du travail de bénévole. Donc on a une minimisation des dépenses de ce point de vue-là, ce qui en fait aussi sert le contenu, puisque le fait que ce soit bénévole, ça donne la possibilité à d'autant plus de personnes de venir s'exprimer à la radio. On tient effectivement grâce à des subventions, grâce aussi à des ateliers d'éducation aux médias, qui sont du coup rémunérés, ce qui en fait est un levier utilisé par beaucoup de médias indépendants. Aussi grâce aux dons, et d'ailleurs merci à toutes celles et ceux qui ont participé à la cagnotte. Et d'ailleurs, on notera que les dons, c'est aussi un levier qui est souvent actionné par les médias indépendants ou dons de petite échelle qui manquent de thunes, quoi. Ensuite, on a aussi Panthère Première qui repose sur un modèle associatif qui minimise les dépenses en ayant une équipe relativement réduite de collaborateurs et collaboratrices. C'est une revue bimestrielle et d'un point de vue de l'accessibilité aussi, tout est en ligne. Donc là, il n'y en a pas de contradiction entre les deux. Elle a recours à des subventions. Mais elle rend publique lesquelles, et du coup, c'est aussi très transparent économiquement. Le reste de ses revenus, c'est des abonnements, de la vente des revues, des dons, etc. On a plein d'autres exemples de médias indépendants à Marseille et aussi autour. La Radio Grenouille, par exemple, du point de vue... pour une radio, par exemple. En fait, vous pouvez retrouver, pour ce qui est de la presse écrite en tout cas, il y a la carte de la presse, pas pareil, qui est publiée par L'Âge de Fer, que vous pouvez retrouver sur Internet. Parce que là, j'ai donné des exemples marseillais, mais... Du coup, la carte de la presse, pas pareil, de L'Âge de Fer, c'est sur toute la France. Et du coup, vous pouvez trouver plein de journaux assez chouettes. À côté de ça, donc on a le modèle associatif. Il arrive que des médias choisissent d'avoir recours à des pubs sans pour autant vendre leur âme au capitalisme. Par exemple, alors c'est un exemple qui est achevé maintenant, mais parce que la revue Vertigo a rendu l'âme. Mais du temps où elle existait encore, elle choisissait avec attention ses publicités selon ses critères. C'est-à-dire qu'elle politisait en fait les personnes avec lesquelles elle choisissait de faire des partenariats. Ce qui faisait qu'en fait, il n'y avait pas d'influence externe sur le contenu de la revue, mais que ça permettait quand même de gagner de l'argent. C'est-à-dire qu'ils étaient payés, mais par les personnes qu'ils choisissaient avec lesquelles ils choisissaient de travailler. C'est aussi le cas du journal EBAM, avec deux A et un point d'exclamation, basé à Marseille et Montréal, qui cède aussi des adhésions à côté de son association éditrice, des ateliers d'éducation aux médias, donc comme j'ai dit tout à l'heure, et du soutien des lecteurs et lectrices. Le tout avec une toute petite équipe de 3 personnes, donc des dépenses minimisées par ailleurs. Cela dit, il faut quand même souligner que dans la plupart des cas, la plupart des journaux, surtout mainstream, la publicité, c'est complètement opposé en fait, à la possibilité d'une indépendance. C'est ce qu'on a entendu avant, comme nous l'a dit Daphné Gastaldi et comme nous l'a dit Éric Lacarrière dans son édito média. Parce que en fait, dès lors que la marque qui donne de l'argent pour sa publicité n'est pas d'accord avec un des contenus du média, du coup, ça fait une perte de recettes brutale pour le média et ça peut les faire crouler, quoi. C'est d'ailleurs un truc qui est arrivé au journal Libération, qui n'a pas croulé, mais qui avait des publicités pour LVMH et qui un jour a publié une une contre Bernard Arnault. Et Bernard Arnault, il s'est fâché, il s'est mis pas content tout rouge et il a rapidement privé des revenus des publicités LVMH, ce qui a eu des conséquences directes sur le chiffre d'affaires de Libération, bien évidemment. À côté de ça, on a encore évidemment les subventions publiques, tant qu'elles existent encore. Et donc ça, c'est pas un levier en fait, qui s'oppose à l'indépendance du média, du point de vue du contenu. Disons que les subventions publiques ne vont pas intervenir sur le contenu proposé par le média, mais par contre, le risque, c'est qu'elles baissent, et c'est de plus en plus instable, on va dire, de dépendre de ces subventions-là, même si, en fait, pour un modèle associatif, souvent, on n'a juste pas le choix. Alors, à titre d'exemple, on a la subvention du FSER qui, du coup, subventionne les radios associatives. Et récemment, du coup, c'était en discussion de baisser de 30% cette subvention-là, ce qui aurait signifié la mort de plein de radios associatives. Et on est très content que ça ne se soit pas fait. Mais voilà, ça illustre un peu, en fait, le risque, la grande précarité dans laquelle se retrouvent, du coup, notamment les radios associatives et, de façon générale, les médias qui ont besoin des subventions pour survivre. Après, sans parler aussi de tout ce qui est médias qui quittent les formats traditionnels et qui proposent leur contenu plutôt sur des réseaux sociaux ou de streaming. Donc même on en a sur Twitch, on en a sur YouTube. Ce qui leur permet d'être rémunérés par les abonnements via la plateforme. Donc là, pour citer, pas forcément à Marseille, on a Blast, qui est très chouette. On a aussi Le Média, qui essaye de passer à la télé, mais qui se dispute un peu avec l'Arcom. Et plein d'autres encore. Et ces nouveaux modèles qui passent par le streaming et les réseaux sociaux, en fait, ça a des avantages. C'est une meilleure accessibilité. Il y a beaucoup de gens qui regardent YouTube. C'est facile de toucher un public. Et en plus, c'est gratuit. Enfin, plus ou moins, parce que quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Mais souvent, ce sont du coup des médias qu'on peut consulter sans payer, du moins. Cela dit, ça veut aussi dire accepter de remettre le sort du média entre les mains des grandes GAFAM que sont YouTube, Instagram, etc. machin. Enfin, du coup, Meta et Google. Et de leur politique de référencement, ce qui, du coup, est dommageable à plein d'écarts. Mais c'est bon, c'est mieux que rien, quoi. C'est loin d'être tout rose, mais en soi, ça a quand même des avantages certains. Et encore une fois, donc, à côté de toutes ces possibilités de rémunération, on a aussi beaucoup de médias indépendants qui appellent aux dons pour soutenir la presse indépendante, donc. Et donc, notamment Blast, mais aussi CQFD, Radio Galère, L'Âge de Fer, et enfin, à chaque fois qu'un média va mourir ou n'est pas encore mort, ne disons pas des choses aussi négatives, il y a forcément un moment où il finit par appeler aux dons, parce que, en fait, c'est un levier tellement nécessaire, étant donné que si on refuse de l'argent de partout, en fait, il ne faut pas s'étonner de ne pas avoir l'argent, et donc, forcément, on a besoin de recevoir de l'argent des personnes qui profitent du... Enfin, je m'embourbe un peu, mais c'est nécessaire de donner à ces médias-là parce qu'effectivement, si leur indépendance tient du fait qu'il n'ait pas d'argent. Et du coup, il faut quand même soutenir l'indépendance. Quoi. Mais soutenir l'indépendance, ça veut dire donner de l'argent. Enfin bref, entre autres, évidemment. On a encore du coup plein d'autres médias dont je vous ai parlé. Mais du coup, voilà, vous pouvez les retrouver notamment sur le journal L'Âge de Fer. On va faire une petite pause musicale et on reprendra la suite après Inspecta de Jane.
On my chest, I don't want a yoga jet. All I want is your respect. Imposter, inspect, I got too much on my plate. I don't want a yoga jet. All I want is your respect. Try me, try to buy me. With your technology, illogic. I want a new start, do something smart with my art. My only motivation is to write with the right emotion. I don't care about nothing else but music going on. Lock it, lock him down, lock him down, down, down. Lock it, lock him down, lock him down. I got too much on my chest. I got too much on my plate. Lucky, lock him down, lock him down, down, down. Lucky, lock him down, lock him down. I got too much on my chest. I got too much on my plate. Sometimes I wish I could be who I wanna be and not who they want me to be. Just make it all easy, yeah, yo. I got to get away, yo. But I don't give a fuck about what you think of me, yo. Charm me, confuse me, elude me with your fake wings. We both know who you really are. Imposter, you're not a star. My only motivation is to write with right emotion. I don't care about nothing else but music going on, yo. Lock it, lock him down, lock him down, down, down. Lock it, lock him down, lock him down. I got too much on my chest. I got too much on my plate. Lucky, lock him down, lock him down, down, down. Lucky, lock him down, lock him down. I got too much on my chest. I got too much on my plate. Lucky, lock him down, lock him down, down, down. Lucky, lock him down, lock him down. I got too much on my chest. I got too much on my plate. Lucky, lock him down, lock him down, down, down. Lucky, lock him down, lock him down. I got too much on my chest. I got too much on my plate.
Du coup, après toute la liste que je vous ai faite sur ces différents médias, on peut retenir deux choses. Déjà qu'on a plein de médias intègres qui cherchent à être indépendants, même s'ils luttent un peu pour survivre. Mais du coup, pourquoi, enfin, quel est le problème dans cette mesure-là? Bah, en fait, c'est que le paysage médiatique tel qu'on l'observe aujourd'hui, il est débordé des mêmes idées en boucle, qui ne sont pas du tout des idées indépendantes, qui sont le résultat d'influences de milliardaires notamment, et non pas tant d'un point de vue quantitatif, c'est-à-dire que, comme j'ai dit, il existe plein de médias qui sont forts de cette intégrité et de cette indépendance, enfin, dans le sens de non-influence externe, mais d'un point de vue de champ, de couverture. C'est-à-dire que si on regarde le paysage médiatique, il y a des voix qui crient plus fort que les autres, même s'il y a plein d'autres petites voix à côté. Partout, en fait, on nous parle de l'extrême droite, notamment, de sujets qu'on n'a pas envie d'entendre, mais on s'en rend à peine compte, en fait, tellement c'est devenu normal. C'est-à-dire que le discours normal, c'est maintenant celui de l'extrême droite. Ceux qui ont l'air radicaux maintenant, c'est ceux qui se défendent de cette pensée-là, et c'est ceux, en fait, qui sont indépendants, ceux dont l'information, dont le propos n'est pas acheté par des milliardaires. Là où l'info est la plus fiable, c'est là que le discours dominant nous fait pourtant croire que c'est le moins crédible, le plus hors sol. Comment ça se fait? C'est parce que les médias indépendants, ils sont tellement peu diffusés que, en fait, il n'y a que les personnes qui veulent vraiment avoir un média, une information fiable, qui les connaissent. Et donc, c'est forcément des gens qui sont déjà politisés de base. L'effet, c'est que, en gros, ça devient niche, ça devient un peu pour l'élite, entre guillemets, d'avoir une information indépendante et fiable, en fait. Et donc, quand on cite ces sources, on est directement qualifié d'islamo-gauchiste, parce que c'est plus à la mode, en fait, d'être informé de façon correcte. Un autre aspect de tout ça, c'est aussi qu'on peut remarquer qu'un média intègre, c'est forcément un média précaire. C'est un peu ce que j'ai dit depuis le début. Vu qu'en fait, ils n'ont pas de thunes, enfin, vu qu'ils refusent de la thune de partout pour conserver leur indépendance économique autant que possible, évidemment, ils sont précaires. À part Mediapart, on a très peu d'exemples de journaux qui soient indépendants et qui soient pas un peu dans la merde, quoi. La presse indépendante, telle qu'on l'a vu du coup sur le paysage marseillais, est souvent petite et compromise économiquement. Parce que minimiser les influences, c'est par définition refuser de la thune à droite à gauche, comme je viens de le dire. D'autant plus quand on a envie d'être accessible au plus de monde possible. Le résultat de tout ça, c'est du coup des appels aux dons fréquents et une dépendance très forte entre le média et ses lecteurs et lectrices. Cela dit, en fait, c'est plutôt positif que ce soit une dépendance entre les consommateurs et consommatrices du média plutôt que des actionnaires et les gens qui possèdent le média. Comme dit Mediapart, seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. Et c'est aussi que le résultat de ça aussi, c'est que des fois, les médias ne survivent pas. Donc on a des médias indépendants qui sont très chouettes, et puis un jour, ils ne sont plus là. À Marseille, par exemple, on a l'exemple du Ravi, qui est mort en 2022 à cause d'une baisse des subventions ou d'un retard, malgré des dons qui ont été effectués. Et voilà, parce qu'à un moment, il faut quand même payer les salaires, et quand c'est plus possible, ça ne tient plus quoi. On avait aussi la revue Vertigo, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et en fait plein d'autres journaux, médias, même pas seulement à Marseille, qui souvent ont très peur de devoir déposer le bilan, parce que c'est toujours un risque en fait quand on accepte de vivre dans une précarité comme celle-là. Les mauvaises passes sont en plus de plus en plus fréquentes, puisqu'on a une baisse des subventions, et potentiellement, un jour, le média s'en remettra pas. Mais alors comment est-ce qu'ils font les médias alors qu'ils passent leur temps, enfin les médias indépendants intègres, alors qu'ils passent leur temps entre la vie et la mort ? Quel est le levier qu'ils peuvent actionner par le à côté du manque de thunes, comment est-ce qu'on fait en fait pour suivre quand même? Le moins qu'on retrouve beaucoup, c'est le réseau entre les médias indépendants, intègres justement, voire des structures qui ne sont pas forcément médiatiques, mais qui ont cette volonté de ne pas être influencées par d'autres groupes extérieurs, et qui ont cette volonté de rester autogérés en fait, tout simplement, et dépendre uniquement de eux-mêmes, ou des consommateurs et consommatrices de ces structures-là. Donc ces réseaux, ça peut passer par la visibilisation, le soutien entre les cercles idéologiquement communs. Ça permet d'aider un peu à tenir, même si ça suffira jamais à payer le loyer et les salaires. À titre d'exemple, on peut citer l'émission mensuelle de CQFD sur Radio Galère, qui actuellement n'est pas diffusée, enfin qui n'existe pas actuellement, mais qui a existé jusqu'à il y a peu, et le relais des appels à dons en besoin entre CQFD et entre Radio Galère. On avait aussi une émission de Mars Actu sur Radio Grenouille. En fait, il y en a plein d'autres, des exemples comme ça, du temps où il y avait l'Auravie. On peut voir tout un pavé où ils citent tous les médias et toutes les structures indépendantes qui les ont aidés. Encore une fois, pour prendre l'exemple de Radio Galère, on a aussi plein d'émissions qui ne sont pas produites dans les studios, mais qu'on nous relaie, parce que c'est des contenus qu'on trouve importants et qu'on trouve intéressants, comme ce peut être le cas dans d'autres, dans un autre sens. Donc c'est important de consulter des médias indépendants. Pour soi, déjà, c'est une meilleure information. Et en plus, c'est important de les diffuser pour qu'ils soient moins considérés comme radicaux. Parce que vraiment, ils ne sont pas radicaux, ils sont juste fiables. Il faut normaliser le fait d'avoir une information fiable. Et c'est sur ces joyeuses nouvelles que je vais vous quitter et vous souhaiter une bonne continuation. Et à très vite.